Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin en cette période de rentrée et de voir des personnes que je n'avais pas encore eu l'occasion de voir jusqu'à maintenant. Alors ce matin, je trouve que la présidence qu'a faite Florine va plutôt bien dans ce que j'avais préparé, sans qu'on se consulte, donc je l'ai écouté avec grand plaisir, et peut-être qu'en m'écoutant, vous repenserez à la lecture de Florine dans Romains 8, qui va merveilleusement bien avec ce dont j'ai choisi de vous parler ce matin. Ce qui m'a vraiment travaillé en préparant cette prêche, c'est la question, même le grand débat, du déterminisme. Qu'est-ce qui est inné? Qu'est-ce qui est acquis? Qu'est-ce qui dépend de nous? Et qu'est-ce qui nous dépasse? C'est une question qu'on peut se poser sur des tas de sujets. On peut se la poser dans le cadre de l'Église, on appelle ça la prédestination ou même la double prédestination. Ça n'est pas exactement de ça que je vais vous parler ce matin, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. On peut se la poser aussi quand on a des enfants. Qu'est-ce qui est dans leur caractère, dans leur gène, et quel est le rôle des parents? Qu'est-ce qu'on transmet quand on les éduque? Et puis c'est une question que moi-même je me pose assez souvent puisque je travaille dans le soutien scolaire et je suis amenée à voir des tas de profils d'élèves différents, des élèves hyper doués qui n'ont pas besoin de travailler, et puis le jour où il faut quand même commencer à relire ses leçons, ça leur fait tout drôle. Je vois d'autres élèves qui travaillent de façon acharnée et qui ont bien du mal à obtenir des résultats et qui me disent « mais je travaille, j'arrive à rien » et puis peut-être ma copine, mon frère, mon cousin ne travaille pas et puis lui il a des super notes. C'est pas toujours facile de savoir exactement quoi répondre. J'ai même le cas de deux jumeaux qui sont les personnes les plus différentes que vous pouvez imaginer. Sophie vous confirmera, si vous voulez, à la fin du culte. Deux jumeaux, vous n'avez jamais vu deux personnes aussi différentes, tant sur le plan physique que sur le plan du caractère et sur le plan des études. C'est vraiment absolument fascinant. Alors vous vous dites, où est-ce qu'elle veut en arriver avec son histoire là d'inné, d'acquis, de déterminisme? Eh bien en fait, qu'est-ce qui a réactivé toutes ces pensées en moi? C'est lorsque j'ai lu dans l'évangile de Matthieu la parabole sur les deux fils. Je vous propose de la lire tout de suite. Elle se situe dans Matthieu 21. Elle commence au verset 28. Jésus s'adresse aux pharisiens et il leur demande : que pensez-vous ? Un homme avait deux fils. S'adressant au premier, il lui dit : mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit « Je ne veux pas ». Ensuite, il se repentit et il alla tout de même travailler à la vigne. Le père, s'adressant à son autre fils, lui dit la même chose « Va travailler à la vigne ». Ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur », mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? Les pharisiens répondirent à Jésus, le premier. Et Jésus leur dit, Je vous le dis, en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Jésus va ensuite continuer sur la parabole des vignerons et celle du festin des noces qui est un peu plus connue, mais c'est vraiment sur cette parabole que je voudrais qu'on s'arrête ce matin, parce que dans ce petit texte, on apprend déjà plein de choses. Et la chose vraiment essentielle que j'ai retirée, c'est que Jésus ne propose pas aux pharisiens un chemin tout tracé dans lequel ils n'ont aucune décision à prendre. Au contraire, Jésus, encore une fois, les met en face de leurs responsabilités et leur dit que finalement, rien n'est joué, contrairement à ce qu'ils avaient tendance à croire. Pour prendre un peu de hauteur par rapport à ce texte, on se situe dans la fin de l'évangile de Matthieu. Et par rapport au ministère de Jésus, on est vraiment dans un contexte assez particulier, puisqu'on approche de la fin de son ministère. Jésus est entré dans Jérusalem, un peu plus haut dans le chapitre. Il a été salué, il a eu une entrée triomphale dans Jérusalem. Ça a été le point culminant de sa popularité, puisque dans peu de temps, ceux qui l'ont salué triomphalement diront à son propos « crucifie-le ». C'est aussi le point culminant des tensions de Jésus avec les chefs religieux. Les chefs religieux, on arrive à un point où ils ont de plus en plus de mal à supporter Jésus, à supporter sa popularité. Ils sont de plus en plus en colère contre lui et contre ses interventions. Et on s'approche vraiment du point de rupture où tout va exploser et où Jésus bientôt va avoir ce qu'on appelle la passion, va être traîné devant Ponce Pilate et sera finalement crucifié. Donc on est vraiment dans une atmosphère qui est assez lourde. Pourtant, Jésus continue à enseigner, il continue à répondre aux questions, à faire des miracles, et il continue aussi à tenir tête face aux pharisiens, face aux chefs religieux. Et quand on arrive dans ce chapitre, où Jésus s'adresse donc directement avec cette parabole aux chefs religieux, les chefs religieux cherchent en fait à décrédibiliser Jésus. On vient de lire la réponse de Jésus, qui est plutôt cinglante. Je vous le dis, en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Fallait oser quand même leur dire ces choses en face et en public. Jésus ne cherche pas à les humilier ou à se montrer supérieur. Non, Jésus est en train de leur montrer, mais vous n'êtes pas honnête en fait. Vous n'êtes pas honnête avec moi quand vous posez ces questions. Les pharisiens ont demandé, juste avant notre parabole à Jésus, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité ?» Ils essayent toujours de le coincer, ils veulent toujours trouver un moyen de le faire tomber. Les pharisiens sont complètement aveuglés. Au verset 15 du chapitre 21, on apprend qu'ils sont indignés quand ils voient les merveilles que fait Jésus et les enfants qui le louent. Ils sont indignés. Si je vous dis, il se passe des choses merveilleuses là dehors dans la rue, qui va me dire je suis indigné? J'espère personne. J'espère que tous vous me suivrez et qu'on ira voir ce qui se passe. Et que si c'est vraiment merveilleux, on sera émerveillés. Les pharisiens sont indignés. Ils sont indignés par la popularité de Jésus, ils sont peut-être jaloux aussi. Et ces hommes qui auraient dû guider le peuple, qui auraient dû les accompagner dans leur compréhension des textes religieux, qui auraient dû être les premiers à dire au peuple « Regardez, voici le Messie », en fait, ils ne cherchent qu'à faire tomber Jésus. Ils ne cherchent qu'à s'en débarrasser. Et Jésus connaît leurs sentiments, il connaît leurs intentions. Il sait qu'ils ne sont pas honnêtes. Il sait qu'ils ne veulent pas vraiment savoir par quelle autorité est-ce qu'il fait ces choses. Ça ne les intéresse pas vraiment. C'est pourquoi il leur dit « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Il va alors les interroger sur Jean-Baptiste, en leur demandant le baptême de Jean-Baptiste, d'où venait-il ? Et là, les pharisiens, ils sont acculés, ils sont coincés, ils ne savent pas quoi répondre. Encore une fois, parce qu'ils ne cherchent pas à réellement comprendre. Si on suit leur raisonnement, qui est écrit noir sur blanc, à la suite de la question de Jésus, ils se disent « Ah, si on dit que ça venait du ciel, il va nous dire « Bah alors pourquoi vous n'y avez pas cru ? On va se retrouver coincés. » Mais en même temps, si on dit non, ça ne venait pas du ciel, ça venait des hommes, alors on va avoir des problèmes avec la foule qui est là en train d'écouter. Parce que la foule pense que Jean-Baptiste est un prophète. Voilà des hommes qui, au lieu de s'occuper du salut de leur âme, s'occupent de leur cote de popularité et ne veulent surtout pas contrarier la foule. Les pharisiens sont donc incapables de répondre, pas parce qu'ils ne savent pas, ou peut-être qu'ils ne savent pas vraiment, peut-être. Mais en tout cas, dans leur raisonnement, ce qui ressort, c'est l'inquiétude de la réaction de la foule, et ne pas perdre la face devant Jésus. C'est dans ce contexte que Jésus donne cette parabole des deux fils. Et c'est une des rares paraboles qui n'est pas adressée à la foule ou aux disciples, mais qui est directement adressée aux pharisiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de sa parabole, lorsque Jésus leur demande qui a fait la volonté du Père entre les deux fils, Jésus et les pharisiens sont d'accord. Et c'est quand même assez rare pour qu'on le souligne. Ils sont d'accord, le premier fils a fait la volonté du Père. Et une fois qu'ils se sont mis d'accord, Jésus se livre à sa conclusion. Et là, C'est pas une conclusion très sympathique pour eux. Hein. On peut donc penser qu'ils n'avaient pas vraiment saisi, lorsque Jésus a raconté la parabole, qu'ils étaient visés. Si vous continuez la lecture du chapitre avec celle sur les vignerons, où là encore une fois Jésus vise les pharisiens et là les pharisiens comprennent que Jésus les met dans le rôle des méchants vignerons qui ont rejeté les prophètes et qui rejettent le Messie. Là, c'est un petit peu plus tendu à la fin. Là, les pharisiens sont très très énervés et si la foule n'avait pas été là, ils auraient certainement essayé de s'emparer de Jésus et de lui nuire. Mais sur cette parabole des deux fils, les pharisiens sont d'accord, oui, c'est le premier fils qui a fait la volonté du Père. Pourtant, le premier fils, ce n'est pas les pharisiens. Le premier fils, celui qui dit d'abord « Non, non, je n'irai pas travailler », mais qui finalement y va, il représente ceux que Jésus nommera ensuite comme étant les publicains, les prostituées, les gens que les pharisiens méprisent par-dessus tout, ceux qu'ils considèrent comme inférieurs, mais ces gens-là ont su se repentir. En tout cas, ceux dont Jésus dit « Ils vous devanceront dans le royaume de Dieu ». Ils ont su se repentir. Le deuxième fils, qui dit qu'il va aller travailler, mais qui n'en fait rien, lui, malheureusement, représente les pharisiens et malgré ce qu'il dit, il n'obéit pas à la volonté du Père. Ces deux fils prennent des décisions différentes. Et ce qui m'a vraiment choquée, dans le sens frappée dans cette parabole, c'est que Jésus ne juge pas ses fils sur ce qu'ils étaient. Il n'a pas jugé en disant « Ah, il ne voulait pas y aller, ce fils qui pourtant y a été ensuite, il n'était pas bien intentionné au départ. » Non, non, non. Il ne dit pas non plus que l'autre fils avait dit qu'il le ferait, que donc il y avait de la bonne volonté, etc. Non. Ce que Jésus regarde, c'est la décision qu'ils ont prise. Vous voyez cette histoire de déterminisme, d'inné, d'acquis. Peu importe finalement ce qu'ils étaient. Peu importe que les publicains, les prostituées aient une vie qui n'était pas à la gloire de Dieu avant, qu'ils aient pris des tas de mauvaises décisions. Là, ils arrivent à une sorte de carrefour et c'est là que tout se joue. On n'a pas d'explication. On ne sait pas pourquoi le premier fils se repent et va travailler et le deuxième fils n'y va pas. Jésus ne sous-entend rien. Et j'ai tendance à croire que Jésus laisse finalement chacun réfléchir à sa situation, à son comportement, à ses motivations. Je crois que Jésus remet en question, mais qu'il ne va jamais donner de leçons, il ne va jamais faire la morale. Il laisse chacun prendre ses propres décisions. Quand Jésus, à la fin, donne sa conclusion, il a des mots particulièrement durs. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Devancer n'est pas apprendre dans le sens qu'ils iront les premiers. Devancer est apprendre dans le sens « ils prendront votre place ». La place qui était pour vous, vous avez choisi de ne pas la prendre, d'autres l'ont prise. C'est donc une conclusion particulièrement dure. Et Jésus fait en fait deux reproches aux pharisiens. Il va revenir à Jean-Baptiste en disant « Mais Jean, vous n'y avez pas cru ? Pourtant, il est venu à vous dans la voie de la justice. » C'est-à-dire que Jésus montre qu'il approuve la conduite de Jean-Baptiste, son ministère. Il répond à sa propre question. Le baptême de Jean-Baptiste, il ne venait pas des hommes, il venait du ciel. Et les pharisiens, qui passent leur temps à étudier les textes, est-ce qu'ils n'auraient pas dû être les premiers à s'en rendre compte? Voilà le premier reproche de Jésus. Est-ce que vous n'étiez pas aux premières loges pour vous rendre compte que là, il se passait quelque chose d'extraordinaire? Il leur reproche de ne pas avoir cru en Jean-Baptiste, pas plus qu'ils ne croient en lui aujourd'hui. Voilà le premier reproche, de ne pas croire à ceux que Dieu envoie, Jean-Baptiste et son propre fils. Mais il y a un deuxième reproche dans cette conclusion. Vous avez vu les publicains, les prostituées qui ont cru, et vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire. Ces gens que vous méprisez, que vous ne voulez même pas regarder, que vous considérez comme impurs, voilà les gens qui étaient à prendre en exemple. Voilà des gens qui auraient dû vous remettre en question. Et ça ne vous a rien fait. Vous voyez des choses merveilleuses et vous êtes indignés. Il y avait de quoi être énervé. Et je pense que Jésus avait ce qu'on pourrait appeler une sainte colère en voyant ces hommes qui auraient dû être les guides spirituels du peuple et qui non seulement ne croyaient pas, mais en plus poussaient le peuple à ne pas croire. Quelle lourde responsabilité! Jésus ne supprime pas la loi dans cette parabole. D'ailleurs, il ne la supprimera jamais. Il ne dira jamais que la loi était quelque chose d'inutile, de mal ou ce que vous voulez, d'accord ? Il ne va pas dire que c'est mal d'obéir à la loi, non. Il va dire qu'il ne suffit pas d'obéir à la loi. La loi n'a jamais sauvé personne. Par contre, pour ceux qui n'obéissent pas à la loi, les choses ne s'arrêtent pas là. Parce que Jésus est venu offrir une nouvelle possibilité. Il y a ceux qui n'obéissent pas à la loi parce que peut-être ils n'essayent même pas, parmi ces publicains, parmi ces prostituées, peut-être des gens qui avaient cessé d'essayer, qui n'avaient jamais même essayé. Même ceux qui faisaient de leur mieux ne pouvaient jamais être à la hauteur de l'exigence de la loi. Et c'est cela que les pharisiens n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais compris que Jésus venait ouvrir un nouveau chemin, le chemin de la foi, le chemin de la repentance, pour accéder au salut. Et moi, ce qui me touche par rapport aux pharisiens, c'est qu'il n'y avait pas de déterminisme pour les pharisiens non plus. Les collecteurs d'impôts, les prostituées, tous ces gens du peuple, tous ces pécheurs qui peut-être savaient particulièrement qu'ils n'étaient pas à la hauteur, se sont vus offrir le salut en croyant en Jésus. Mais ce salut, il était valable pour les pharisiens aussi. Il aurait fallu que les pharisiens réalisent que la loi n'était pas tout. On a l'exemple de Nicodème. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'est devenu Nicodème. Encore une fois, il a été laissé à sa réflexion, il a été laissé face à sa propre décision. Mais Nicodème s'est interrogé. Nicodème est venu parler à Jésus. Nicodème s'est laissé interpeller. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ce texte, qui date pourtant de tellement d'années, c'est qu'il est encore actuel aujourd'hui. Je ne suis pas venue uniquement vous parler des pharisiens, des publicains et de ce qui s'est passé à leur époque. Ce que Jésus nous dit dans les évangiles, c'est pour nous aussi. Il nous ouvre toujours le chemin. Face aux exigences de la loi, qu'on n'arrivera jamais à remplir, il y a la croix. Jésus qui a tout accompli. Face à nos péchés, il y a toujours la repentance. Alors, où en sommes-nous ce matin ? Moi, je crois qu'on est toujours sur le chemin, finalement, peu importe ce qu'on a déjà traversé. Même si on est déjà venu s'agenouiller au pied de la croix, je pense qu'il y en a plus d'un aujourd'hui qui peut m'appuyer lorsque je dis que c'est tous les jours qu'il faut aller s'agenouiller. C'est tous les jours qu'on peut se rendre compte qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'on aurait voulu faire, mais que par contre on a fait ce qu'on ne voulait pas. Ça n'a rien de nouveau puisque Paul lui-même le disait à l'époque. Avec Jésus, il n'y a jamais de déterminisme. Tous les jours, il nous offre l'occasion de venir à ses pieds, de demander pardon, de demander sa grâce et de lui demander le courage de continuer à avancer en faisant chaque jour de notre mieux pour essayer de lui ressembler davantage. Si je vous parle du roi David, vous allez certainement me dire des choses merveilleuses à son sujet. Il était tellement héroïque. Quel grand homme! Il a écrit des psaumes magnifiques. Eh bien, un de mes psaumes préférés du roi David, c'est le psaume 32. Et pourtant, quand il a écrit le psaume 32, il n'était pas au mieux de sa forme. Le psaume 32, c'est un psaume de repentance. Et si je vous demande, à votre avis, quel est le plus grand péché du roi David, vous allez peut-être tous penser à la même chose. Ah, c'est vrai! Il n'a pas fait que des choses merveilleuses. Ah, merci Jésus, je me sens mieux. David, il a quand même abusé de sa position de roi pour envoyer un homme à la mort et pouvoir prendre sa femme. Si on commence tous à parler de nos pires péchés, je ne sais même pas si en les additionnant, on arrive au même péché que lui, vous voyez. Mais pourtant, Dans le Nouveau Testament, on parle de David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, je pense que David, il avait très bien compris tout ce dont nous avons parlé ce matin. David, il avait très bien compris que ce qui importe à Dieu, c'est ce qu'on fait après. Évidemment, si on peut ne pas pécher, c'est encore mieux. Mais une fois qu'on a péché, qu'est-ce qu'on fait ? Libre à nous de choisir. David, il a choisi de se repentir. Vous savez certainement que ça n'a pas été sans conséquences. Il y a eu la mort du fils qu'il a eu avec Bathsheba, cette femme pour qui il avait fait tuer un homme, son mari. Il y a eu tout ce qui s'est passé avec Absalom, la révolte de son fils. C'est clair, cette histoire, ça a été le début du déclin pour David. En tout cas, d'un point de vue humain, terrestre, par rapport à son règne. Mais David avait compris qu'il pouvait demander pardon. Et je voudrais terminer en lisant le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen.